France Culture.
Entrez donc dans la danse des Midis de Culture, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. À 13h, je recevrai le musicien Arthur H et le dessinateur Alfred. Mais d'abord, c'est l'heure du Point Culture et cette semaine, Nicolas Herbeau est aux manettes. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marie, bonjour à tous et à toutes. On s'intéresse ce midi à la protection du patrimoine culturel et plus particulièrement, Marie, aux mots utilisés pour le désigner. Des notions qui, vous l'imaginez bien, varient en fonction des pays et de leurs droits. Et c'est tout l'objet de ce dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel qui paraît aux éditions CNRS en version augmentée. 10 pays, autant de chercheurs, bref, un travail collectif qui est présenté demain lors d'un colloque au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Alors que les conflits détruisent toujours le patrimoine culturel, mettre des mots pour le protéger, c'est le dossier du Point Culture du jour. Bonjour Marie Cornu.
Bonjour.
Vous êtes juriste, directrice de recherche au CNRS et spécialiste du droit des biens culturels. Vous avez co-dirigé et co-écrit le dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel qui paraît en ce mois de juin dans une version augmentée aux éditions du CNRS. On va parler de ce colloque organisé à cette occasion demain au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Mais d'abord, Marie Cornu, qui dit dictionnaire dit définition. 4 nouveaux pays entrent dans ce dictionnaire comparé. Ma première question est la suivante. Est-ce que le terme d'abord de patrimoine culturel renvoie à la même définition, à la même réalité en fonction des pays et du droit de chacun ?
Alors ce terme de patrimoine culturel, à la fois c'est un terme partagé parce qu'il y a des conventions internationales, donc on trouve un certain nombre de points communs dans la détermination de cette entité du patrimoine. Les premières conventions ont commencé après la Seconde Guerre mondiale. Alors, on parle d'abord de biens culturels, puis de patrimoine. Cela étant, on observe que chaque pays développe sa propre conception du patrimoine culturel. D'où l'intérêt d'aller voir de plus près, dans chacun de ces pays, quelle est cette appréhension, comment à la fois les politiques publiques, mais aussi le droit, se saisissent de cette notion patrimoine culturel qui peut être entendue de façon plus ou moins large.
Alors c'est tout l'intérêt de ce dictionnaire comparé. Alors parmi les pays européens qui sont concernés, il y avait l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suisse. Vous y ajoutez la Belgique, la Grèce, la Lettonie et la Pologne. L'idée c'est de mettre en commun, faire une sorte d'état des lieux de la législation, des notions qu'on emploie dans ces pays-là pour ensuite pouvoir comparer.
Tout à fait. Et cette entrée des vocabulaires est toujours extrêmement instructive. La façon de nommer les choses. Alors, vous parliez de patrimoine culturel, mais quand on descend un peu plus dans le détail, on voit que les désignations ne sont pas toujours les mêmes. On va parler ici de biens culturels, là de biens culturels d'importance nationale, de trésors nationaux, etc. Et cette façon de nommer les choses renseigne aussi sur la conception qu'on déploie de cette notion-là, mais aussi renseigne sur la façon de l'encadrer, de la normer. Et la perspective de comparaison, là, est tout à fait féconde pour pouvoir comprendre que ces variations de vocabulaire, derrière ces variations de vocabulaire, il y a aussi des variations de sens, des conceptions différentes.
Alors justement, puisqu'on parle de protection, le colloque auquel vous participez demain au musée du Quai Branly Jacques Chirac s'appelle Patrimoine et conflit, patrimoine en conflit. On a évidemment des cas emblématiques qui sautent aux yeux ces dernières années. La cité antique de Palmyre en Syrie détruite par Daesh, plus de 500 sites détruits en Ukraine depuis février 2022, un patrimoine millénaire sous les bombes à Gaza actuellement. À quoi s'attaque-t-on, Marie Cornu, quand on détruit ce patrimoine culturel? Et puisqu'on parle de droit du patrimoine, que peut le droit ?
Alors, on s'attaque pas seulement à des choses, on s'attaque à des choses qui ont été investies par des personnes, par des groupes, par des communautés. Donc, on s'attaque aussi à l'identité d'un certain nombre de groupes. Donc, je pense que l'enjeu, là, est tout à fait important. Et comme vous le rappeliez, ces dernières années, il y a eu un certain nombre d'événements, de destruction, de désastres patrimoniaux, on pourrait dire. Et donc, c'est ce qui nous a guidés et orientés dans le choix d'un thème. On ne pouvait pas aborder tous les thèmes du dictionnaire, mais on s'est dit que ce thème du patrimoine lieu de conflit et était tout à fait important à investir. Et en l'occurrence, dans le dictionnaire, parmi les mots nouveaux, on a introduit en droit international le mot de destruction intentionnelle, donc ce qui avait du sens aussi.
Est-ce qu'on peut identifier des responsables? Est-ce qu'on peut les poursuivre? Est-ce qu'on peut demander des réparations?
Alors justement, ce thème des réparations, c'est sans doute une question qui a pris dans l'espace public de plus en plus d'importance. Et la question des responsabilités, on va aborder ce thème-là au musée du Quai Branly. Question des responsabilités, c'est à la fois la question des responsabilités des acteurs de ces crimes, responsabilité individuelle sur le plan à la fois pénal et sur le plan civil. Et il y a des actions possibles, y compris devant les juridictions internationales. Et puis, la responsabilité, c'est aussi la responsabilité des États. C'est aussi la responsabilité collective des États qui doivent répondre à ces actes et qui doivent aussi endosser une part de responsabilité. La communauté internationale a son mot à dire aussi dans ces questions-là. Donc il y a à la fois une responsabilité sur le terrain politique, mais sur le terrain juridique, la Cour pénale internationale s'est saisie notamment de la fameuse affaire des mausolées de Tombouctou et engager la responsabilité des acteurs de ce point de vue. Donc, il y a une possible action devant les juridictions. Alors, ce que peut le droit, bien sûr, le droit a ses limites. D'un point de vue préventif, on voit à quel point c'est compliqué.
Marie Cornu, un dernier mot, celui de restitution de ces biens culturels, souvent qui sont conservés encore actuellement par d'anciennes puissances coloniales dans des musées, mais que réclament les pays d'origine. Est-ce que restituer, c'est réparer, c'est aussi protéger?
Alors cette question de la restitution, c'est vrai que c'est aussi un enjeu très contemporain. La remontée de l'histoire, les remontées de l'histoire coloniale, là, ont fait qu'un certain nombre de législateurs au niveau national se sont emparés de cette question et ont légiféré avec cette idée que restituer se pouvait être effectivement réparé. Ce n'est pas le seul mode de réparation, évidemment, mais c'est une façon, effectivement, d'engager un processus de réparation. Donc, plusieurs États européens, en tout cas, et ça, c'est une chose nouvelle, depuis l'apparition du dernier dictionnaire, le contexte politique n'était pas du tout de même nature. Et voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est revenu sur ce thème-là de la restitution, puisqu'il y avait une actualité politique, évidemment.
Merci beaucoup Marie Cornu. Je rappelle, demain, mardi 3 juin, le colloque Patrimoine et conflit, patrimoine en conflit, enjeu de vocabulaire, c'est au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, à l'occasion de la publication du dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel aux éditions CNRS. Merci.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Nicolas, certains artistes, auteurs, ont encore du mal à toucher leur retraite.
Oui, c'est ce que dénonce le député socialiste Gérard Le Seul dans une question adressée au ministère de la Culture. Alors, pour rappel, durant de nombreuses années, deux organismes, l'AGESA et la Maison des Artistes, n'ont pas prélevé ou déclaré correctement les cotisations à l'assurance vieillesse des artistes auteurs. Résultat, en 2016, le gouvernement les a autorisés à racheter les trimestres non comptabilisés. Sauf que, vous l'imaginez, la démarche reste complexe, surtout quand il s'agit de fournir les preuves d'un travail effectué il y a plus de 30 ans et que les rachats de ces semestres peuvent avoir des coûts conséquents. Bref, les artistes auteurs ont jusqu'à 2027 pour racheter ces cotisations non versées.
Le procès de trois anciens cadres d'Ubisoft démarre aujourd'hui.
Souvenez-vous, tout est parti d'une enquête de Libération en 2020. Elle révélait l'ambiance de terreur qui régnait dans les bureaux du géant français du jeu vidéo. De nombreux témoignages dénonçaient alors de comportements violents et tyranniques de trois dirigeants haut placés. Six femmes, trois hommes et deux syndicats ont alors porté plainte contre Serge Asquet, Tommy François et Guillaume Patrux pour des faits de harcèlement moral et sexuel, mais aussi tentative d'agression sexuelle. Les accusés nient en bloc et restent présumés innocent. Le verdict, lui, est attendu vendredi.
Et pour finir, Nicolas, la princesse de la pop dit avoir réalisé son plus grands rêves.
Et vous avez un grand sourire en le disant, Marie. Mais Taylor Swift vient de mettre un terme à cette très longue bataille sur la propriété de son œuvre. Elle a racheté les enregistrements de ses 6 premiers albums. Depuis leur création, les droits étaient passés entre plusieurs mains, et notamment celle du mania de l'industrie, Scooter Braun. Elle y était même allée jusqu'à réenregistrer des albums en y ajoutant la fameuse version de Taylor, cette mention qui lui permettait de récupérer en quelque sorte ses morceaux. Donc, 6 ans de bataille, une victoire. Taylor Swift décide d'être désormais seule du sort de ses créations. Et Marie, elle va donc aussi toucher l'ensemble des revenus qui en découlent.
Plus heureuse.
Voilà, tout est bien qui finit bien.
Merci Nicolas. J'espère que demain ce sera aussi joyeux.